Radio Spirale.
Radio Spirale vous présente l'enregistrement de la table ronde de Facebook à Goodreads, le web espace de débat et de critique littéraire, qui a eu lieu le 1er mars dernier à La Flèche Rouge, librairie et atelier de quartier. La table ronde était animée par Simon Brousseau, avec Mathieu Arsenault, Daniel Grenier, Mélanie Janard et Amélie Panton.
Okay, super. Bon, ben d'abord, merci d'être là. Ça fait plaisir de faire une table ronde devant des gens. C'est mieux que d'être seul, disons. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord présenter les intervenants à tour de rôle. Ensuite, je vais les inviter à, disons, faire une espèce de première prise de parole, disons, pour se présenter, dire qu'est-ce qui les intéresse quant au débat puis à la critique littéraire sur le web. Donc, je commence avec Mathieu, à ma gauche. Mathieu Arsenault est auteur et critique. Son dernier livre, « Le guide des bars et pubs du Saguenay », a été publié au Cartonnier en 2016. Ses deux premiers livres, « Album définissant » et « Vu d'ici », ont été adaptés au théâtre. Il montera lui-même sur les planches tout bientôt, en mars 2017, pour jouer une adaptation de « La vie littéraire », donc son livre « La vie littéraire » au théâtre La Chapelle.
Ça commence le 22.
Donc, achetez vos billets. Il a également fondé l'Académie de la vie littéraire, qui remet des prix à chaque année. On peut lire ses chroniques dans la revue Liberté et acheter ses T-shirts littéraires, j'en ai moi-même plusieurs, sur doctorac.co, sa boutique en ligne. Ensuite, à sa gauche, vous voyez Amélie Panton. Amélie Panton est née en 1985. Elle est l'auteur d'un recueil de nouvelles, « Le charme discret du café filtre », paru en 2011, et d'un roman intitulé « Petite laine », qui va paraître très bientôt également. Elle travaille... Pardon?
Le 14 mars en librairie.
Le 14 mars.
Oui.
Elle travaille dans le milieu communautaire montréalais. Elle est membre active, et même, je dirais, hyper active, de Goodreads depuis 2011, où elle a noté et commenté plus de 1000 livres... et c'est vrai, j'ai vérifié, donc elle ne ment pas. Ensuite, à sa gauche, Daniel Grenier. Donc, Daniel est traducteur et romancier. Il a fait paraître 3 livres aux éditions Le Cartanier. La solitude de l'écrivain de fond, un essai qui vient tout juste de paraître. L'année la plus longue, un roman paru en 2015 qui a reçu le prix littéraire des collégiens, qui a été finaliste au prix du gouverneur général et au prix des libraires, et aussi un autre livre, donc « Malgré tout, on rit à Saint-Henri », un recueil de nouvelles qui est paru, lui, en 2012. Il a publié chez divers éditeurs plusieurs traductions d'auteurs canadiens-anglais. Il a rédigé une thèse de doctorat à l'Université du Québec à Montréal sur l'histoire des représentations du romancier dans la fiction américaine du 19e et du 20e siècle. Il est présentement en stage postdoctoral à l'Université Laval, où il travaille sur la littérature afro-américaine et les romans de la Renaissance de Harlem. Et finalement, à l'autre bout de la table, Mélanie Janard. Mélanie Janard est réviseure et rédactrice à la Pige. Elle a étudié en communication et en édition à l'Université de Sherbrooke. Elle a collaboré à plusieurs blogs. A été chroniqueuse web à l'émission spécialisée BD Film en Vôtre sur les ondes de CIBL. Il y a un an, elle a lancé sa chaîne YouTube où elle met de l'avant la littérature québécoise contemporaine. Elle est aussi auteure et son premier recueil de poésie paraîtra en 2017. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole. Donc, peut-être que Mathieu, tu pourrais commencer et on va faire un premier tour de table comme ça.
Faut faire quoi, là? Faut dire quoi?
Ben, pourquoi t'es là? De quoi t'as envie de parler? Je sais pas.
Je peux raconter comment j'en suis... je me suis inscrit sur Twitter.
Ouais, vas-y.
En 2008, j'ai commencé mon postdoc. Là, j'avais plein de temps et plein d'argent. Je pouvais rester chez nous. Puis je venais de sortir Vue d'ici. Puis je savais qu'après, tu sais, entre Album de finissant et Vue d'ici, c'était passé 4 ans. Puis j'écrirais probablement pas plus vite que ça. Puis je m'étais dit, ah ouais, quand ton livre sort... Après quelques mois, comme quand tu as fait le tour des invitations, les invitations diminuent puis tu disparais un peu. T'sais, quand tu fais du roman, c'est pas comme quand tu fais de la poésie, tu peux pas lire tes extraits un peu partout. Fait que je m'étais dit, faudrait que je trouve quoi faire entre 2 livres. Puis là, je me suis. À un moment donné, j'étais au Quai des Brumes, puis il y avait un musicien qui m'a présenté en disant « Ah, ça, c'est Mathieu Arsenault, il n'est pas sur Facebook. » Là, j'étais pas sur Facebook. Et je m'étais dit « Non, je ne serai pas sur Facebook. » Parce que j'étais allé voir sur Facebook, puis il y avait comme tous mes amis du secondaire, puis les gens que j'avais connus au secondaire. Puis moi, je fais toujours table rase du passé, puis je voulais pas savoir ce que mes... Je voulais pas que les gens de mon propre passé me retrouvent. Fait que je me suis dit « Ah, Twitter, ça va être mieux. » Puis là, je me suis inscrit sur Twitter en attendant que les gens viennent sur Twitter, puis ils sont jamais vraiment venus, parce que ça marche moins que sur Facebook. Mais j'ai trouvé à travers cette plateforme-là une espèce de défi d'écriture assez intéressant parce qu'il faut toujours reformuler nos phrases quand on a quelque chose à dire pour toffer 140 caractères. Et puis j'ai trouvé petit à petit mon plaisir sur Twitter parce que tu relais beaucoup des articles. Puis, le service de messagerie directe fait en sorte que, genre, on peut faire beaucoup de... j'ai des discussions en seul à seul, beaucoup plus que des discussions collectives, puis ça me plaît, ça, je fais beaucoup de petites discussions comme ça avec les gens qui me parlent, dont Simon Brousseau, et Maude Veilleux, puis Frédéric Dumont. Ça arrive des fois qu'on se parle des après-midi de temps, puis on se parle pas genre de ce qu'on fait, on se parle de littérature. C'est pour ça que je trouve fascinant Twitter, parce que je suis plus quelqu'un de one-on-one que de discussion collective. D'accord. Ça fait-tu 6 minutes?
Ben, t'étais pas obligé de faire 6 minutes, mais on se réchauffe, là, puis ensuite, moi, je vais vous poser des questions. Donc, ouais, je te remercie.
Je ne suis pas sur Facebook. Hein,
ben, c'est bien de le préciser, parce que c'est un fait rare, puis ça me semble assez significatif. Peut-être qu'on y reviendra.
Ben oui, moi, j'ai commencé ma vie sur Internet, sur LiveJournal, qui était une superbe plateforme début 2000, je pense. Puis je pense que quand j'ai commencé à écrire des choses sur Internet, je parlais pas vraiment, j'avais aucune prétention littéraire ou critique ou quoi que ce soit, je racontais des affaires de ma vie. Puis de LiveJournal, j'ai migré à un blog, puis du blog, ben je pense qu'à un moment donné, on arrive comme au bout de soi-même, là. J'ai comme vraiment vampirisé mon quotidien assez longtemps, puis là, j'avais plus rien à dire. Donc j'ai commencé à écrire des trucs plus sur les livres que je lisais. Ça a fini par donner un blog qui était juste des commentaires de lecture. Puis, assez rapidement, j'ai commencé à pas aimer ça, avoir un blog de commentaires de lecture, parce que je recevais des services de presse. Puis, j'haïssais ça parce que... moi, j'ai pas un rythme de lecture qui est vraiment collé sur l'actualité littéraire. Puis, quand tu reçois des services de presse, ben, t'es comme... pogné dans une espèce de rythme de parution, de publication, puis ça me stressait beaucoup. Visiblement, j'angoisse à comme pas grand-chose, mais tu sais, c'était une des affaires que j'aimais pas. Fait que j'étais déjà sur Goodreads, puis j'ai migré là-dessus complètement parce que, ben, de un, c'est, si vous avez des envies intenses de cataloguage, c'est vraiment la plateforme parfaite. Là. Il y a comme plein de petites fonctionnalités qui peuvent assouvir vos désirs à ce niveau-là. Mais c'est surtout que c'est comme super informel, dans le sens qu'il n'y a pas... La façon que le feed est conçu, on suit un petit peu difficilement les gens qu'on suit. Il y a une espèce d'algorithme bizarre, puis ça fait en sorte que ça nous dégage de toute pression de vraiment publier de façon régulière ou fréquente ou pas, ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis moi, je viens pas du milieu littéraire, je travaille pas là-dedans, j'ai pas étudié là-dedans, ça fait que c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'ancrage concret dans une communauté littéraire quelconque, ça fait que c'est une façon d'avoir l'impression de participer à une conversation sur des produits culturels ou ce genre de choses-là. Ça fait que c'est pas mal ça.
Merci.
Tu as aussi réussi à remettre l'esperluette au goût du jour depuis plusieurs années. Amélie, elle n'écrit jamais « et ». Elle écrit toujours le petit symbole. Mm. Écoutez, moi, j'ai blogué. Je suis la génération d'après LiveJournal. Je ne sais pas c'est quoi, ça. Comment?
Blogueur?
Ouais, c'est ça. Moi, c'est Blogger, Blogspot. Puis ensuite, j'ai migré vers WordPress. J'ai blogué entre... 2009, 2008, jusqu'à 2012, en fait, puis mon arrêt de blog littéraire, si on veut, sur lequel j'écrivais des trucs de fiction, de création, ça s'est fait, en fait, le terme là, est arrivé quand j'ai publié, malgré tout, On rit à Saint-Henri, dans lequel il y a plusieurs des courts textes qui sont des billets de blog qui avaient été écrits à l'époque sur le Blogspot, et... à partir du moment où j'avais cette publication-là, ça m'a comme pas enlever le goût, là, mais c'est-à-dire que le temps que j'allouais à la création était nécessairement alloué, ben, en fait, se concentrait sur l'écriture d'un roman qui est devenu l'année la plus longue. Pour ce qui est de la critique littéraire, j'en faisais un petit peu sur le blog, sur ce qui s'appelait Saint-Henri. J'avais commencé quelques petits billets qui s'appelaient courte exploration de l'ailleurs, quelque chose du genre. Je faisais de la critique assez impressionniste, puis de fil en aiguille sur les blogs, ça crée rapidement une communauté assez tissée serrée. J'ai blogué énormément avec Simon à cette époque-là. On a fait des chaînes, des tags qu'on appelait à l'époque, des chaînes de texte qui se répondaient et tout. Avec Mélanie aussi, c'est là qu'on s'est connus en fait, sur les blogs. Et j'ai connu aussi, peut-être que vous la connaissez, une fille qui s'appelle Myriam Daguzan-Bernier qui s'est occupée pendant longtemps d'un blog de critique qui s'appelait « Ma mère était hipster », qui est maintenant archivé, là, mais qui a été super actif pendant longtemps. Elle a mené le bateau toute seule pendant 4 ou 5 ans, puis ensuite, elle a commencé à aller chercher des collaborateurs, puis à la fin, on était rendu presque une trentaine de personnes qui écrivaient sur Ma mère était hipster. Puis là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la critique plus, de façon plus sérieuse, là, avec des textes plus élaborés. Puis ce côté-là aussi est totalement disparu de ma pratique, parce que là, la petite gig que j'ai en critique littéraire, c'est pour Voix et Images, qui est un organe, ma foi, assez traditionnel, merci, de publication. C'est pas, on est loin des réseaux sociaux et de l'Internet. Ouais, voilà.
À mon tour. Oui. Moi, je tiens à dire que je connais Amélie de Live Journal, Daniel, puis Simon de Blogspot. Ah non, Simon était sur
WordPress, attention.
ça fait quand même plusieurs années que je collabore à des blogs, à des émissions de radio où je parle de littérature. J'avais fait justement aussi avant un peu de création sur les blogs. Puis, il y a un peu plus qu'un an, je me suis dit, OK, là, j'ai le goût d'avoir mon propre projet, puis d'avoir ma propre ligne directrice, puis de créer mon propre contenu au lieu que ce soit les autres qui bénéficient un peu du contenu que je leur produis. Puis, donc, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Mais mon but au départ, c'était de rejoindre un public adolescent que je trouve qui est un petit peu délaissé, peut-être des maisons d'édition, des libraires, parce sans nécessairement parler de littérature jeunesse, mais de parler d'une littérature qui peut les intéresser parce qu'ils sont peut-être dans un entre-deux. Est-ce que je suis encore en train de lire du jeunesse? Est-ce que je ne peux pas me tourner vers de la littérature plus grand public ou adulte? Donc, je voulais m'adresser aux adolescents, puis... pour moi, ça allait de soi que c'était sur YouTube qu'il fallait que j'aille parce que les blogs, les ados lisent pas ça. Fait que j'ai lancé ma chaîne YouTube, puis finalement, c'est pas les ados pantoute qui me suivent. Non, la grande majorité, c'est la tranche de 25-35, puis l'autre tranche d'après, c'est 35-45. Fait que, ouais, finalement, puis je fais juste parler de mes lectures. Puis ça donne que c'est surtout de la littérature québécoise contemporaine, parce que c'est ce que je lis. Donc, je dis que ma chaîne, c'est un peu pour faire découvrir la littérature québécoise contemporaine à des gens qui ne sont pas nécessairement des littéraires, qui ne vont pas nécessairement lire des critiques dans Le Devoir ou dans les revues littéraires, mais qui ne sont pas intéressés par la littérature, qui la connaissent peut-être juste pas, ou qui la connaissent, mais qui n'ont pas accès de cette façon-là. Puis, à date, ça marche vraiment, puis je suis vraiment contente de la réception que j'ai de ça. Puis, par rapport à la critique, tu sais, aujourd'hui, ce soir, le thème, c'est la critique. J'irai pas jusqu'à dire que je fais de la grande critique, mais pour moi, c'est quand même toujours important de nuancer mes propos, de montrer que j'ai quand même un esprit critique quand je lis. J'ai fait le choix éditorial sur ma chaîne de ne pas faire des critiques négatives de A à Z, parce que si mon but, c'est de faire découvrir un livre, pourquoi je mettrais tout ce temps-là à dire qu'un livre est à chier, tu sais? Ce serait ridicule. Fait, mais c'est important pour moi quand même de toujours nuancer. Souvent, je vais dire des petits points négatifs dans ma critique qui est overall positive. C'est ça.
D'accord. Ben, je vous remercie pour ce premier tour de table. Écoutez, moi, j'avais prévu vous questionner un petit peu sur la question de la communauté, parce que là, si on parle de critique sur le web, on parle de débat, ben, t'sais, ça implique hein, des interactions. Là. C'est un petit peu la fonction première des réseaux sociaux. Puis je suis content parce que chacun à votre manière, disons, vous avez abordé des aspects différents de la communauté. Mathieu a parlé du fait que, bon, le fait de ne pas être sur Facebook, mais sur Twitter, ça lui permettait d'échapper une espèce de communauté imposée, hein, celle du secondaire. Il retrouvait des gens qui s'intéressent à la littérature, ils ont envie de parler de littérature, donc c'est parfait. Toi, Amélie, tu as dit, je l'ai noté, que en fait, tu aimais bien écrire sur Goodreads parce que tu n'avais pas d'ancrage d'une communauté précise. Il n'y a pas l'espèce de pression de produire un discours qui serait liké ou pas. Hein, donc, tu y retrouvais, si j'ai bien compris, une sorte d'espace de liberté. Mais il y a quand même une communauté qui se profile, une communauté un peu diffuse, un peu éthérée, quelque chose comme ça. Daniel, lui, a quand même abordé la question qui me semble importante. Là aussi, je ne sais pas si les gens le font encore. Il faudrait voir. J'avoue que je lis moins de blogs, mais l'espèce d'effet d'émulation que peut avoir les blogs. Hein, lorsqu'on a des amis blogueurs, bon, nous, on jouait à la tag, hein, donc on se donnait un peu des défis d'écriture, si vous voulez. Donc, ça aussi, ça me semble intéressant. Et puis, Mélanie, toi, tu as dit que, d'abord, tu visais un public, hein, tu visais l'électorat adolescent, puis finalement, tu t'es retrouvée à t'adresser sans trop le vouloir à un autre public, là, celui des 25 à 45 ans. Donc, ça pose une question qui est intéressante aussi, c'est-à-dire que ce qu'on dit n'intéresse pas toujours nécessairement les personnes qu'on visait au départ. Donc, bon, il y a ça. Donc, je vais formuler des questions un petit peu plus précises. J'en ai plusieurs, je les lance comme ça. Vous pourrez ensuite réagir à ces questions. Donc d'abord, quelle place occupent les interactions dans la critique sur le web ou dans les débats, évidemment, c'est des interactions, mais disons l'interaction sur le web dans vos pratiques. Est-ce qu'il y a une communauté ou il y en a plusieurs, des communautés de critique littéraire ou des communautés littéraires, disons, au Québec, québécoises? Est-ce qu'il y a des petites sous-communautés où il y en aurait comme une grande qui engloberait tout? Question corollaire, si vous voulez. Donc, est-ce que les mondes littéraires, ben, je pense que Mathieu a déjà un peu répondu à la question. Est-ce que les mondes de Facebook, Twitter, Goodreads, YouTube sont étanches? Est-ce que c'est des mondes vraiment séparés ou au contraire, est-ce que ça, c'est complémentaire et compatible? Puis finalement, une dernière question que je me posais en regardant ce que vous faites sur le web. Les communautés dans lesquelles vous inscrivez, est-ce qu'elles sont plutôt consensuel, c'est-à-dire est-ce qu'on se retrouve à discuter avec des gens qui sont d'accord avec nous, ou au contraire, s'il n'y aurait pas un petit peu de dissensus, disons, dans vos communautés littéraires, c'est-à-dire qu'il y aurait justement place à débat, hein, ce qui est un des aspects de la table ronde aujourd'hui. Donc voilà, je vous garoche toutes ces questions-là, et puis j'espère que vous trouverez quelque chose à dire à ce sujet. Vous pouvez y aller dans le désordre, là, pas obligé d'y aller comme à l'école, chacun votre tour.
Ben, moi, il y en a une qui m'intéressait, celle où tu disais, est-ce que les réseaux sociaux sont tous séparés? Parce que moi, je le fais beaucoup avec ma chaîne. J'ai ma chaîne sur YouTube, j'ai ma page Facebook qui est associée à ma chaîne, j'ai mon Twitter, j'ai mon Instagram, j'ai mes Insta Stories, puis j'ai mon Goodreads, puis j'en oublie sûrement.
T'as Snapchat aussi.
Snapchat, j'ai commencé un peu à le délaisser parce que j'ai au moins 6 fois plus de views sur Insta Stories. Mm-hmm. Mais bon. Mais tout ça est interrelié d'une certaine façon, mais on ne l'utilise vraiment pas de la même façon.
Mais tu t'es carrément créé une sorte de persona Internet comme global, tu sais, en ce moment, là, à partir des vidéos. Il s'agit ensuite d'aller investir tous les autres médiums, ce qu'on ne faisait pas quand on bloguait au départ.
Non,
on se contentait de bloguer chacun sur nos plateformes respectives, je crois. Là, mais là, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, ce que tu fais, c'est ce qui s'approche le plus d'une pratique vraiment contemporaine, là, une pratique contemporaine, une façon d'investir le web et les réseaux sociaux. Si je compare avec ce qu'Amélie, tu fais sur Goodreads, par exemple, c'est beaucoup plus global chez toi. Il y a un côté, comment dire, d'aller vers le plus moderne, si on veut, possible, tu sais, avec Instagram et tout ça, puis d'aller chercher les derniers outils possibles pour aller rejoindre le plus de gens possible, idéalement.
Ouais, ben je sais pas si c'était vraiment une volonté d'être moderne. Là. Pour moi, ça allait de soi. Là. J'aime ça, puis c'est parce que... Puis aussi, quand tu es sur YouTube, ce qui fait que les gens embarquent avec toi ou pas, c'est qu'ils t'aiment, toi, ou non, même plus que ton sujet, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui lisent même pas. Puis ça, c'est vraiment le fun, parce que peut-être qu'à un moment donné, ils vont être intéressés de lire un livre que j'ai présenté. Puis je donnais ça comme exemple ce matin. Je disais, tu sais, c'est ma communauté qui a choisi la couleur de rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. T'sais, ça a l'air super futile dit comme ça, mais c'est des petites niaiseries du genre qui font que les gens ont le goût d'embarquer dans ta game à toi, puis de te suivre dans tes projets, puis dans tes lectures. Donc, tout ça est un peu interrelié. Mm-hmm. Puis quand je mets une vidéo en ligne, je vais voir sur Goodreads, puis j'ai genre 10-15 personnes qui ont dit « want to read » du livre que j'ai parlé. Les gens suivent quel livre je suis en train de lire, puis ils me demandent si je vais en parler dans une prochaine vidéo. Donc, tout ça, même si ça peut sembler éclectique, c'est interrelié. Mm-hmm. Pour moi.
Ouais,
puis je pensais... je pense que c'est sûr que c'est interrelié parce que tout le monde utilise toutes sortes de plateformes de toute façon, mais je pensais plus comme avec la notion de débat. Moi, ce que je vois, tu sais, Goodreads, c'est vraiment consensuel. Là. C'est bien rare que le monde va dire directement en dessous d'un commentaire que tu as publié, je suis pas d'accord, ou au pire, les gens vont dire, très beau texte, ou ça me donne envie de lire. Tu sais, c'est comme toujours, on reste toujours à ce niveau-là, c'est bien correct, c'est pas une critique de ça en soi. Mais ce que je trouve, c'est que les gens utilisent d'autres, en tout cas, moi, personnellement, les gens vont soit souvent m'écrire sur Facebook en message privé, pour me parler de choses que j'ai écrites sur Goodreads. C'est comme si la plateforme Goodreads n'est pas faite pour qu'il y ait vraiment un débat clair ou public. Ça fait qu'on va le faire comme en coulisses, dans des espaces privés d'échange. Puis ça se fait surtout... Tu sais, il y a comme une partie que c'est, mettons, des auteurs qui vont m'écrire directement pour dire « Ah, ben tu sais, merci de l'attention portée à mon livre » ou quoi que ce soit. Mais la majeure partie des messages que je reçois en privé, c'est comme des je veux pas dire que je fais des critiques parce que j'ai plus l'impression de faire des commentaires de lecture que des critiques, là, mais des commentaires qui sont peut-être mitigés, qui sont comme un 3 étoiles sur Goodreads. l'énigmatique 3 étoiles, on sait pas vraiment c'est quoi, mais c'est là. Puis... Là, ce que je vais recevoir, c'est des messages de gens qui disent « Ben, t'as pas compris le livre » ou « Je suis pas d'accord avec la lecture que t'en as faite » ou carrément un char de marde. Fait que, tu sais, comme vraiment, mais ça se fait pas sur un espace public. Ça va se faire en privé. Comme si on... Je sais pas c'est quoi la logique derrière. C'est comme « Ah, j'ai une opinion que je veux te partager. Je le ferai pas sur une plateforme publique. Je vais te le dire en privé. Mm-hmm. » Fait que...
Mais Goodreads, c'est un espace étrange aussi quand même parce que c'est tellement... T'sais, les auteurs sont impliqués, les maisons d'édition sont impliquées, le marketing, ben, surtout dans le monde anglo-saxon, parce que c'est très, très, très fort de ce côté-là. Il y a eu des articles qui sont sortis dans les dernières années sur l'aspect un peu malsain, presque, de Goodreads, là, où il y a des gens qui ont carrément des équipes, là, qui vont aller faire des critiques négatives exclusivement, ou des trucs comme ça, ou est-ce que ces gens-là ne devraient pas être bannis de la communauté et tout, puis les auteurs qui viennent réagir sur leur Goodreads pour « Ah, t'as pas compris mon livre » et tout, tu sais. Mais ça se fait pas vraiment au Québec, encore une fois, parce que c'est plus consensuel comme milieu, là. Mais dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, ça se voit énormément. Donc, c'est une drôle de bébite Goodreads pour ça. Puis, il y a comme différentes sortes de lecteurs, différents niveaux de lecteurs. Tu deviens bibliothécaire à un moment donné, ou des trucs comme ça, ou éditeur Goodreads. Là, puis, tu peux peut-être bannir des gens par-ci, par-là.
Ben, j'ai remarqué qu'il n'y a aucun, mais à part Amélie, il n'y a aucun auteur québécois sur Goodreads qui est actif sur Goodreads. Mais on le sait tellement qu'ils sont tous là à checker leur Goodreads. Puis,
moi, il est dans mes favoris dans mon téléphone.
T'as une alerte, là, dès que t'as... Et moi, j'adore Goodreads parce que, justement, c'est les gens... c'est des gens qui n'ont pas de pudeur à faire une critique, puis qui ont une certaine naïveté quand ils font la critique. Ben, je parle pas de toi, là, mais
non,
je parle
mais je m'inclus moi, là-dedans aussi, comme je suis...
Non, mais c'est pas de ce genre de commentaires-là que je parle, mais... Puis moi, je prends un très grand plaisir à aller lire les critiques sur Goodreads, puis j'envie presque la naïveté des fois des personnes qui sont pas comme nous dans le milieu un petit peu littéraire, puis qui ont pas à avoir peur de ce qu'ils vont dire, puis de se dire « Ah, l'auteur va le voir, puis il va m'haïr, le Colin. » Puis, tu sais, il y a des choses que nous, en tant qu'auteur, puis en tant que dans le milieu littéraire, on peut pas dire. Que les gens sur Goodreads se permettent, puis c'est magnifique.
Oui, moi, c'est le seul endroit où j'ai eu des critiques négatives. C'est parce que dans les médias, c'est toujours comme... C'est bien, c'est très bien, c'est merveilleux, mais comme tu les rencontres après, puis genre comme, oh, il y a une résistance, puis ils l'ont pas écrit, tu sais. Mais sur Goodreads, là, on m'a dit genre que j'étais une pâle copie de Vicky Gendreau. On m'a dit que j'enfonçais des portes ouvertes, puis comme, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement décourageant quand je me suis rendu compte. J'y vais pas toujours parce que je trouve ça malsain de me délecter de ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte pourquoi j'avais tant de mauvaises critiques. C'est parce que mes livres sont enseignés au cégep. C'est des publics qui sont pas comme des gens qui arrivent pas à mes livres parce qu'ils aiment ça. Ils sont obligés de le lire. Puis comme
ils s'en sacrent pas mal que l'auteur vienne voir après.
Puis en voyant ces mauvaises critiques-là, j'ai fait comme « Ah non, faut pas que je commente parce que c'est quand même... tu sais, je me sentirais pas bien, moi, d'avoir fait une mauvaise critique... d'un cinéaste, puis comme le cinéaste qui n'est pas dans mon milieu, tu sais, lit ça, puis il répond, tu sais, je me censurerais, je m'auto-censurerais après, fait que j'ai laissé ça aller, puis j'ai commenté ça sur Twitter, puis il y a des gens qui m'ont dit sur Twitter, mais nous, on aime ce que tu fais, mais c'est pas ça que j'étais juste amusé du type de commentaires. Il y a peu de commentaires qui m'affectent, mais il y en a qui m'ont affecté sur Goodreads, là, quand je me suis fait dire que j'enfonçais des portes ouvertes, je me suis dit, oh man, c'est peut-être c'est vrai, peut-être que c'est pas... Mais je trouve ça bien parce que genre ça arrive pas nulle part comme des critiques de monde qui sont pas dans le milieu littéraire, qui sont pas obligés de lire ton livre puis qui aiment pas ça.
Mais il y a quand même énormément de blogs. Étonnamment, il y en a encore beaucoup. Tu sais, moi, pour ma petite expérience française là, que j'ai vécue dernièrement avec la publication de l'année la plus longue en France, là, il y en a beaucoup. Les Français d'ailleurs sont sur Babelio, ouais. Ils sont pas du tout sur Goodreads. Des blogs là, de tu sais Elfic Nymphe Polaire 42 là, qui sont pas du tout des lecteurs ou des lectrices professionnelles, tu sais, puis qui vont faire justement des critiques extrêmement négatives là, parfois des livres qu'ils ont reçus. Gracieuseté des maisons d'édition, par exemple, là, qui font partie de clubs de lecture et tout ça. Sur Goodreads, il y en a énormément. Babelio aussi, il y en a beaucoup. Moi, je voulais rebondir sur l'idée de consensus dont tu parlais, là, parce qu'une chose que j'ai remarqué dernièrement avec Facebook, c'est qu'on voit de plus en plus apparaître par-ci, par-là, des auteurs qui vont... partager une critique négative de Christian Desmeules, par exemple, ou d'un autre critique, peu importe, du Devoir ou de la Presse, en expliquant un peu à quel point le critique a mal fait sa job et qu'il est de mauvaise foi. Puis là, c'est là qu'on voit le consensus arriver, c'est-à-dire que Facebook, ça fonctionne beaucoup comme ça. Tout à coup, tes amis arrivent, et là, ils se mettent à commenter en dessous, puis à la fin, Christian Desmeules, c'est devenu le gros homme blanc qui a mansplainé le livre assez rapidement. T'sais. Donc, ce consensus-là, on le sent dans l'arrivée des réseaux sociaux comme ça. Puis, c'est un petit peu malsain jusqu'à un certain point parce que, comme disait Mathieu, c'était pas nécessairement pour ça que la personne avait mis ça au départ. C'était comme un retour sur soi et tout. Mais là, on le sent beaucoup, là, cet aspect-là de... C'est tes amis qui viennent là, pour te défendre. Hey, il est bon ton livre. T'sais.
Je comprends pas à quel point c'est malsain. C'est juste ça amène une nouvelle discussion qui, je trouve, est intéressante. Comme on l'a vu dernièrement avec Sébastien Dulude qui avait fait une critique dans... plus.
Lettre québécoise, oui. Dans Spirale.
Bon, puis l'auteur avait répliqué sur
elle avait répliqué la plateforme sur
Fémicile. Puis là, bon, ça... c'est la Saint-Dulude sur Facebook a répliqué à la fille qui répliquait sur Fémicile. Mais moi, j'ai juste trouvé ça intéressant comme discussion.
Mais c'est pas cet exemple. Justement, ça, c'est l'exemple que j'aurais donné justement en contre-exemple parce que c'était très intéressant.
Mais en même temps,
ce qui s'est passé à ce moment-là, dans la façon dont, dont Dulude comme, se doit de réagir jusqu'à un certain point, se doit de lui-même faire un retour sur soi. Mais ça, c'est parce que Dulude est assez branché. Je veux dire, la plupart des critiques institutionnelles ne vont pas se donner la peine de faire ça. C'est-à-dire que la critique est publiée et tout. Puis, tu sais, il y a comme un adage quand même là, jusqu'à un certain point qui dit que tu n'es pas supposé répondre aux critiques. Là, on a tous un peu entendu ça. Là. Ouais, un non-dit, c'est ça, ferme ta gueule, tu sais. Mais les gens, maintenant, des fois, ils se la ferment pas, effectivement, puis ils vont comme aller écrire sur Facebook. Je suis pas du tout satisfait du traitement que j'ai eu dans le devoir à matin. T'sais.
Ouais, mais moi, je vois pas pourquoi tu trouves ça malsain. Je trouve que ça amène une discussion intéressante.
Ouais, je trouve ça malsain parce que ça finit par être juste comme... si ça vire comme juste... ben non, ton livre est bon, ben non, ton livre est bon, il a rien compris, ben c'est comme... Tu délégitimes la parole du critique en même temps en l'empêchant aussi d'avoir son droit de parole et tout. Tu sais, ça donne pas grand-chose, finalement, de juste venir dire à ton ami qui vient de publier un roman, ben, il est vraiment bon, ton livre, là, il a rien compris, elle a rien compris, etc. Tu sais.
Je pense que, en vous écoutant, je remarque qu'il y a peut-être une espèce de différence entre les médias sociaux, c'est vraiment quelque chose de qualitatif, c'est-à-dire que, tu sais, par exemple, Amélie, tantôt, elle disait que sur Goodreads, c'était possible d'écrire une critique négative sans que les gens se mettent à lui lancer des briques, tu sais. Puis, tu sais, Facebook, évidemment, a une plus grande visibilité, fait que, tu sais, lorsque, je sais pas, moi, on prend à part Sébastien Dulude pour vous dire, ta critique avait pas rapport, tu sais, il y a quand même l'idée aussi de je sais pas, à peu près un millier de personnes, tu sais, qui observent sans nécessairement commenter, mais tu sais, les gens voient ce débat-là, puis je pense que c'est difficile, tu sais, de débattre de manière, pas respectueuse, mais disons de manière nuancée, quand on sait qu'il y a une espèce de public, tu sais, silencieux qui est en train de nous épier, tandis que, tu sais, sur Goodreads, il y a moins de gens d'abord, donc ça se fait un petit peu plus de manière discrète, tu sais, dans l'intimité, puis je pense que c'est peut-être, c'est une hypothèse que je vous lance comme ça, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est peut-être plus facile d'avoir une vraie discussion, un vrai débat, quand il n'y a pas une espèce de spotlight sur nous, tu sais. Quand on se retrouve sur un média peut-être un peu plus discret où est-ce qu'il n'y a pas l'ensemble de la communauté littéraire qui est en train de nous épier, tu sais, en attendant qu'on trébuche ou... non?
Ben je sais pas si c'est juste pas les mêmes logiques. Comme, je pense que sur Goodreads, ce qui arrive, c'est que c'est comme des prises de... Tout le monde a une prise de position individuelle. C'est ça qui fait qu'il y a un débat sans que les gens aient vraiment à se répondre les uns les autres. Mm-hmm. Puis ce qu'on voit, comme quand tu consultes la fiche d'un livre, dans le fond, tous les commentaires de tout le monde déroulent, puis tu vois un peu, c'est comme un patchwork d'avis de tout le monde, puis c'est de là qu'il y a comme, qu'il y a consensus ou pas, que les gens expriment leur opinion ou pas. Ça fait qu'il n'y a pas, c'est pas, en tout cas dans le Goodreads québécois, là, je ne peux pas vraiment avancer sur le anglophone dans le Canada puis aux États-Unis, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas un espace où les gens vont se mettre en scène comme critiques, dans le fond. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres réseaux sociaux puis d'autres espaces qui appellent d'autres façons de discuter des livres ou, je ne sais pas.
Non, mais je disais ça parce qu'en lisant ce que tu écris sur ton compte dans les derniers jours, j'ai été agréablement surpris de lire des critiques négatives. Tu sais, parfois, à propos de livres qui font consensus, en tout cas, qui ont connu du succès. Là. Par exemple, tu as écrit une critique vraiment très, très dure de Le ciel de B-City. Je ne te citerai pas au micro, mais je suis allé voir, en fait, en ordre d'étoiles. Tu sais, je voulais voir s'il y avait des livres que tu n'avais pas aimés. Tu sais. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, Le ciel de B-City, je pense qu'il y avait 0 ou 1 étoile. Tu sais. Puis là, tu as comme démoli le livre. C'est correct, tu sais, c'est parfait. Mais je me suis dit, tu sais, si quelqu'un faisait ça sur Facebook, tu sais, ça serait comme... il se passerait quelque chose, là. Les gens réagiraient, tu sais. Tandis
que là, tu as écrit ça, puis... Ouais, mais les gens réagissent. C'est juste que, comme... Tu sais, moi, je reçois... ça, c'est un des livres pour lesquels je reçois encore semi-régulièrement des messages sur Facebook de façon privée me disant que j'ai mal lu le livre, que je suis vraiment arrogante de penser que je suis capable de poser un jugement sur ce livre-là. T'sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il ne faut pas idéaliser Goodreads en disant que c'est le royaume de l'expression de soi, puis tout est correct, là. Mais effectivement, il n'y a jamais personne qui a répondu rien là-dessus. Mm-hmm. C'est comme passé, comme dans du beurre. C'est bien le fun si vous avez, un petit peu de rage à déverser. Là. C'est une belle plateforme pour ça.
Moi, ce que j'ai remarqué sur Goodreads, c'est que ça arrive souvent, par contre, pour regarder assez souvent la page de mon livre, par exemple, on remarque vite, puis Mathieu, tu pourras peut-être confirmer, mais les gens qui n'ont pas aimé ton livre, ils sont prompts vraiment à venir le dire. Mm. Ça, sur Goodreads, tu as ça beaucoup. C'est-à-dire que une étoile, il va souvent amener une petite critique, un petit commentaire. Mais le 5, 4 étoiles, c'est juste une note.
Ouais, ça passe de mots, là.
Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu donnes une étoile sur Goodreads ou 2 étoiles, tu as envie de le justifier un peu. Puis, tu sais, c'est à la limite, c'est la moindre des choses. Mais aussi, on s'entend que les gens ne se forcent pas vraiment pour écrire 3 lignes en disant que l'auteur s'est vraiment planté. Puis que c'est c'est souvent ça sur Goodreads. C'est-à-dire, il y avait un buzz, tout le monde disait que c'était bon. Je suis allé chercher ce livre-là, what the fuck, là, t'sais, c'est donc ben poche.
En même temps, moi, je trouve ça vraiment sain comme logique, parce que des fois, tu sais, je pense que comme dans les médias traditionnels, c'est vrai qu'il y a comme des espèces de buzz qui se créent autour de livres, puis on finit par entendre toujours les mêmes avis, puis au-delà des qualités intrinsèques du livre, tu sais, ça devient comme un peu... Je ne sais pas frustrant, mais ça devient juste comme lassant de toujours tomber sur les mêmes interprétations d'un livre ou sur le même caractère vraiment encensatoire d'un livre. Puis je trouve que Goodreads, c'est comme un peu retourné sur terre dans le sens de le livre, c'est impossible qu'il plaise à tout le monde. C'est physiquement impossible, puis ça nous ramène à ça à un certain point. T'sais, comme que ce soit fait avec élégance ou pas, t'sais, comme évidemment non, mais je trouve qu'il y a comme un... Il y a comme quelque chose de le fun là-dedans. Puis, tu sais, je parle de... Pour mon livre, c'est la même chose. Il y a des avis qui sont pas super bons. Puis, à un moment donné, je me dis, ben c'est correct. Tu sais, c'est des gens qui, justement, se sont tournés vers les médias traditionnels, se sont fait dire que c'était donc bon. Puis après ça, l'ont confronté avec leur propre expérience du livre. Puis, ben finalement, ils n'ont pas aimé ça. Puis, c'est comme une soupape à la critique ambiante.
En tout cas, c'est peut-être un des seuls endroits en ce moment où on sort... de la petite communauté littéraire qui est un petit peu en vase clos, effectivement, puis qu'on finit par tout se connaître, puis tout être chummy-chummy sur Facebook. C'est un peu absurde là, que moi, je sois ami sur Facebook avec José Lapointe, Chantal Guy, Christian Desmeules, tu sais, à un moment donné, Marie-Louise Arsenault, tu sais, ça devient comme un peu... où est-ce que le discours peut sortir ensuite, le discours objectif, là, neutre sur un livre? Puis là, effectivement, c'est sur des plateformes comme ça que ça va se faire. Parce que sinon, là...
Puis, tu sais, quand tout le monde encense un livre, moi, je sais que moi, personnellement, des fois, je le lis, j'aime pas ça tant que ça, puis ça vient me remettre en doute. Je me dis, pour vrai, c'est-tu moi qui a pas compris? C'est-tu moi la seule conne? Puis, sur Goodreads, j'ose l'écrire.
Je commence en disant ça.
Peut-être pas fait. Je sais pas.
C'est moi qui est conne.
Je dois avoir déjà fait ça. Mais, tu sais. Ça m'est arrivé avec un livre, c'était donc ben bien narré, c'était donc ben réel, on y croyait, puis j'ai pensé tout le contraire. Fait que c'est ça. Je l'avais écrit sur Goodreads, mais je suis pas sûre que j'aurais fait une vidéo, puis que je l'aurais dit. Fait que il y a comme des...
Moi, il y a une chose que je trouve... avec le recul, ça me surprend puis ça me déçoit. Il y a comme 7-8 ans, quand les blogs littéraires les blogs de création ont cédé plus la place à des blogs de critique, je me disais, ah, c'est merveilleux, on va enfin avoir, on va décentraliser la critique institutionnelle. Puis moi, par exemple, en danse, tu sais, je sais le type de spectacle de danse que j'aime, mais il n'y a aucun critique dans les médias qui peut m'orienter vers ce genre de spectacle. Il n'y a aucun critique qui me ressemble à qui je peux faire confiance. En musique, ça peut être pareil. En littérature, ça peut être pareil. Mais je connais mieux la littérature. Mais avec le recul, finalement, tu sais, je me suis rendu compte que les espaces de critique qui sont apparus sur les blogs, ils restent pas assez longtemps en vie parce qu'il faut les entretenir, puis il n'y a pas de budget, puis les gens font ça parce qu'ils sont passionnés, puis à un moment donné, ça s'effiloche quand les gens ont d'autres affaires à faire, se trouvent d'autres occupations. Sur les blogs sur Goodreads, par exemple, mais la même chose se passe sur Goodreads, c'est que genre, avec le recul, tu sais, la critique institutionnelle a pas été ébranlé par ça, parce qu'on réagit à une critique parue dans un journal beaucoup plus vite qu'on réagit à une critique parue ailleurs. Puis la hiérarchie s'est pas renversée finalement. Puis il y a une espèce de... S'ériger en figure d'autorité, moi au début, il y a 7 ans, je pensais que c'est pas assez facile. Tu as juste à écrire sur ton blog assez longtemps pour que les gens puissent finalement savoir de quoi est-ce que tu parles, puis ils vont te faire confiance. Mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut faire des longs textes, puis... Il faut être constant, puis cette constance-là, puis les faire des longs textes, finalement, sur les réseaux sociaux, ça n'apparaît pas tant que ça. En tout cas, c'est l'explication que je me donne pour me dire, finalement, après 7 ans, il n'y a pas de critique que j'irai voir régulièrement sur tel site. Il n'y a pas de critique qui circule autant que cette critique qu'on va commenter, avec laquelle on ne sera pas d'accord, mais qui est parue dans Le Devoir, puis qui est parue sur la presse, puis... C'est une déception, finalement, parce que je me disais, oh, l'espace de la critique s'est vraiment ouvert il y a 7 ans, puis maintenant, je me dis, oh non, l'espace de la critique est resté institutionnel, sauf qu'il y a plus de gens pour réagir à cette critique-là, puis le débat qui permettrait de faire s'ériger des critiques qui ne sont pas les mêmes que les critiques sur les réseaux dans le système institutionnel, ben, il n'y a pas de contre-pouvoir vraiment qui s'est construit facilement. Peut-être que je ne suis pas assez connecté, mais il me semble que je n'ai pas tant que ça, j'ai pas élargi mon éventail de critiques que je peux suivre depuis 7 ans.
La critique universitaire me semble aller encore assez bien quand même. Là, il y a assez de diffusion, puis de différents magazines, par exemple, Spirale, Voix et Images, des trucs comme ça, Jeux. Mais ça, c'est de la critique qui est lue par... les universitaires, justement, tu sais, on est resté jusqu'à présent dans les critiques plus grand public, puis effectivement, de ce côté-là, ça va vraiment, vraiment pas bien, là, tu sais, dans la critique institutionnelle, puis traditionnelle. Donc, il faudrait effectivement qu'il y ait un réinvestissement dans le web, puis les réseaux sociaux, mais ça revient à ce que tu disais, c'est vraiment une question d'investissement. À un moment donné, on n'est plus capable, tu sais, moi, je fais juste essayer d'imaginer le nombre de temps que ça doit te prendre, par exemple, Mélanie, pour faire une vidéo, puis c'est comme, là, je vais écrire un roman à place, au complet, pour faire une vidéo, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que même au début, tu le mettais même en scène dans les... Tu sais, tu le disais dans tes premières vidéos, c'est comme, OK, là, je suis en train d'apprendre, c'est extrêmement fastidieux, extrêmement laborieux, je vais essayer de continuer. T'as failli lâcher une couple de fois, non?
Non, t'es gentil.
OK, mais il reste que, tu sais... Écrire un texte de blog, c'est vraiment pas aussi long que créer une avec le montage et tout. Là, c'est beaucoup d'investissement.
Non, sauf que tu vas pas rejoindre le même monde, c'est ça. C'est ça l'affaire. Tu sais.
Ouais, j'aimerais ça peut-être juste... parce qu'il y a un point en fait qu'on n'a pas abordé. Mathieu, il touchait un petit peu un instant. Puis comme il nous reste juste 10-15 minutes, je voudrais juste réorienter la discussion pour qu'on termine peut-être là-dessus. Tu sais, dans l'intitulé de la table ronde de ce soir, il y avait quand même un peu, je pense, l'idée aussi de retrouver, tu sais, qu'est-ce qui est spécifique à la critique et au débat sur le web. Puis plutôt que de dire, tu sais, ça, disons, essayons de trouver du positif malgré le négatif qui vient d'être énoncé. La question de l'autorité me semble vraiment intéressante, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des discours qui apparaissent, par exemple le tien ou celui de Mélanie, où les gens vont parler de littérature en admettant d'emblée qu'ils n'ont pas une autorité, comme, disons, quelqu'un qui écrit de la critique dans Le Devoir aurait une autorité, ce qui fait en sorte que ces critiques-là ou ces discours-là, je sais pas si tout à l'heure tu disais « je fais pas vraiment de la critique, je fais autre chose, il faudrait le nommer », mais disons, ces discours-là sont différents de la critique traditionnelle. Puis moi, une des choses que j'ai remarqué en t'écoutant et en te lisant, c'est qu'il y avait vraiment une présence assumée de votre subjectivité, de votre expérience personnelle, votre expérience de lecture. Par exemple, toi, tu vas souvent dire « j'étais à tel endroit quand j'ai commencé à lire C'est-à-dire que tu mets en scène l'acte de lecture. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu es en train de basculer un peu dans ce que les anglophones appellent la non-fiction, si tu veux. Tu es en train de te mettre en scène, tu parles, tu tiens un discours essayistique. Ce n'est pas du tout une prétention à l'objectivité. C'est une subjectivité qui est assumée. Je vais juste donner un exemple pour ceux qui n'ont pas lu, là, peut-être. Donc, quand tu parlais de « Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire » de Roxane Desjardins, tu commences ton texte en disant « La mélatonine ne m'a jamais rien donné, mais j'en glisse quand même deux capsules sous ma langue quand je sors du lit la nuit pour aller épuiser mon insomnie ailleurs. » Quand tu as commencé à lire « Des femmes savantes » de Chloé Savoie-Bernard, tu étais à Rouen. Quand tu as lu « La faim blanche », un roman qui met en scène la faim, tu précises que tu l'as lu entre deux soupers copieux du temps des fêtes au lac Saint-Jean. Puis ça, c'est des affaires qu'on ne lirait pas, tu sais, dans de la critique traditionnelle. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis toi aussi, tu le fais, il me semble, dans tes vidéos, c'est-à-dire que tu dis, ben, tu sais, j'ai lu ce livre-là cette semaine, je pensais à tel truc, ou bon.
C'est plate, finalement.
Non, mais en fait, c'est pas plate du tout. Je trouve ça intéressant de situer la parole, c'est-à-dire d'où est-ce que je parle quand je suis en train de discuter d'un livre. Puis ça, ça me semble peut-être spécifique du web. Donc, je sais pas si...
Je ne vais pas te contredire tout à fait, mais en même temps, dans la, ça fait aussi partie de la tradition. Peut-être Bertrand pourrait me confirmer ou m'infirmer là-dessus, mais une tradition littéraire, une critique littéraire anglo-saxonne aussi. Si tu vas lire les critiques, par exemple, du London Review of Books, le Los Angeles Review of Books, le New Yorker, ça fait partie, ça, d'une subjectivité du critique qui va vraiment mettre en scène, mettre la table, ce qui va souvent raconter une anecdote très très longue pour ensuite entrer dans le texte puis le mettre en scène. Comme ça, c'est ce qui manque justement, d'après moi, en critique francophone en général.
Ouais, ben c'est un petit peu pour ça que j'en parlais. Tu sais, on le voit pas tellement ici. C'est vrai, t'as raison là, que dans le milieu anglo-saxon, on le voit davantage, mais tu sais, ici, c'est pas Daniel Lorrain fait pas vraiment ça.
Non, mais c'est ça. Mais il y a aussi le fait que, justement, dans les journaux, en ce moment, les textes sont vraiment courts. Là. Dans la presse plus, ils pourraient se le permettre, mais ils font pas, étrangement. Ils pourraient, tu sais, avec les pages de la presse plus, faire des très, très longs textes de critiques. Mais,
c'est pas... Pour moi, c'est un peu nécessaire, avec le public que je vise, puis avec le média que j'utilise, là, parce que... Si je fais juste un exposé oral pour parler d'un livre, personne ne va être abonné à ma chaîne. Là, ça va être juste plate. C'est une particularité de YouTube aussi de s'intéresser à des petits faits personnels, genre de la vie de la personne. Puis, je le fais aussi instinctivement. Là. C'est ça. C'est juste ça que je voulais ajouter.
Ouais, puis moi, je pense que, comme moi, personnellement, je pense que je le campe comme ça parce que c'est ça qui... Souvent, quand je commence à rédiger un commentaire, je pense souvent à des conversations que j'ai avec des personnes, puis comment les gens campent leur lecture quand ils t'en parlent de vive voix. Souvent, comme l'expérience de la lecture est aussi importante que ce qu'ils en ont retiré. Fait que c'est un peu, je pense que ça part de là. Puis parallèlement, ben, t'sais, je pense que comme on faut quand même pas oublier qu'on est toutes des auteurs autour de la table, là, mais tout ce que j'écris, moi, c'est aussi une pratique pour d'autres choses. T'sais, comme... Quand j'écris des commentaires de lecture, je veux aussi que ça soit une pratique pour quand je vais écrire de la fiction. Ça fait que j'essaie de développer des codes qui sont intéressants, que je trouve le fun, qui me font inventer des choses ou repositionner des choses dans un espace d'écriture. Ça fait que c'est pas innocent non plus, là, je pense.
Ah, ben c'est la chose... Oui, je pense que on touche à quelque chose d'intéressant parce que moi, quand j'ai commencé à bloguer, avant que je sois sur Twitter, je me suis ouvert un truc sur Blogspot. Ça a été je faisais de la critique dans Spirale avant ça. Puis ça a été l'occasion pour moi d'écrire des choses intelligentes sur des sujets niaiseux. Puis d'écrire des choses niaiseuses sur des sujets intelligents. Puis ça a été comme. C'est un espace d'expérimentation qui était très, très intense parce que je m'étais dit je vais écrire une note à tous les trois jours, ce qui était catastrophique dans mon existence après quelques mois. Mais. Avec le recul, je suis devenu chroniqueur à Liberté à cause de ça. Parce que à un moment donné, j'ai pris un espace de liberté, puis il y a des trucs qui se sont mis en place. Puis je me souviens pas de quel texte j'ai fait, mais je pense que c'était un texte que j'ai fait paraître sur mon blog sur le fait qu'on avait donné un prix essai et tout genre à Ricardo pour au Salon du Livre de Montréal pour un truc. Une catégorie un peu fourre-tout, j'étais comme oh, mais c'est un prix du public en plus, et puis j'étais comme mais ça n'a pas d'allure, tu sais, de donner un prix en essai à Ricardo, puis si on continue de faire ça, ça va être la catastrophe.
Là, quand je sortais ma note sur mon blog, là, j'avais 300 lecteurs, puis soudainement, j'en ai eu 1000, 3000. Puis là, ça a été repris dans Le Devoir, puis ça a été repris. Là, Spirale puis Liberté voulait être publié aussi, puis là, je me suis retrouvé chroniqueur à Liberté de cette manière-là. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les figures d'autorité ne se construisent pas sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des figures de subjectivité qui peuvent se construire, mais l'autorité se confirme juste encore maintenant, malgré tout, dans les espaces traditionnels. Puis si tu continues de faire des critiques comme ça, qui sont avec une voix super subjective, peut-être que c'est quand tu vas faire paraître un recueil de critiques en essai, genre dans un éditeur, que là, soudainement, on va se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet auteur merveilleux? » Et puis même moi, qui suis super très attentif à toutes les petites choses qui peuvent se passer, j'avais lu les trucs de Simon-Pierre Gaudet sur « Fuck le monde », qui était sur un blog anonyme, je trouvais ça merveilleux. Puis là, quand c'est sorti chez Moule, il y a quelques mois, j'ai fait comme « Ah, mais mon Dieu, c'est merveilleux! » J'étais comme ah, maudit tété, tu sais, il fallait que j'attende que ça sorte en livre pour que je vois qu'il y a un auteur là, tu sais, même en essayant très fort, je suis encore victime de mes propres privilèges, de préjugés, de penser que le livre, c'est plus important que le web, tu sais. C'est dur de se défaire de ça, puis comme pour se défaire de ça, il faudrait comme collectivement arriver comme à faire de la critique sur la critique qui se trouve en ligne, faire élargir ça, tu sais, faire il y a quelques années, je me disais ah, mais s'il y a de la micro-édition, il faut faire de la micro-critique, qui fait de la micro-critique? Personne. Mais alors, c'est pas encore arrivé. J'avais fini de parler.
Ouais, ben je vous remercie. C'était bien intéressant, je pense.
Radio Spirale.